Soyez les bienvenus sur France Inter, il est tout juste 7h30. Et c'est le journal de Sébastien Legenis. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les méthodes d'Uber sur le banc des accusés. Dernière invention en date du leader mondial du VTC, faire gagner plus d'argent à ses chauffeurs, mais à condition qu'ils roulent beaucoup, voire beaucoup trop. Reportage à suivre. Des infirmiers qui pourront bientôt faire des points de suture aux urgences. Après 6 mois de grève, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a fait hier soir une série d'annonces surprises. On l'entendra. Dans ce journal également, le Rassemblement National qui recycle des assistants parlementaires à Strasbourg déjà mis en examen. Benjamin Netanyahou qui boycotte la première chaîne de télé israélienne à 2 semaines des élections. Et pour finir, le carton de Toutankhamon, l'exposition à la Villette a battu le record du nombre de visiteurs, plus d'1 300 000 personnes.
À l'occasion de la journée spéciale que vous propose Inter contre les violences faites aux femmes, les deux invités de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 sont aujourd'hui l'ex-procureur de la République de Douai, Luc Frémiot, et Morgane Seliman, victime de violences conjugales.
France Inter.
Les chauffeurs Uber risquent-ils de devenir des dangers publics?
C'est l'inquiétude de certains d'entre eux après le lancement au début de l'été d'un nouveau programme actuellement en phase de test en France. Cela s'appelle Uber Pro. Le principe, plus le chauffeur fera de courses pour Uber, moins la commission prélevée par Uber sera importante. Sur le papier, un simple programme de la firme californienne pour fidéliser sa flotte, mais certains chauffeurs dénoncent un moyen de les faire travailler encore plus et dans des conditions parfois limites. Le reportage de Sébastien Sabiron.
Mettez-vous à l'aise. Comme vous voyez, vous avez une voiture confortable.
Amar passe 9 heures par jour dans sa berline noire. Sur son smartphone, l'appli Uber Driver l'incite désormais à débloquer le statut Gold, mais pas à n'importe quel prix. Pour y parvenir, il doit accepter au moins 80% des courses, en annuler moins de 5% et réaliser 300 courses avant fin septembre.
Comme on va sur mon application, lisez, je ne replie pas les critères. Uber, il est en position de force. Ils disent « Travaillez avec moi ». Et peut-être, à la fin, vous aurez une petite carotte.
Comme dans un jeu vidéo, Uber Pro permet de passer des niveaux Gold, Platinum et Diamond. Une fois ce palier atteint, Uber réduit sa commission de moitié. Mais ce niveau Diamant se mérite.
Il faut avoir 1000 courses. Pour avoir 1000 courses, il faut dormir dans la voiture. Uber, il est en train d'inventer des bombes qui roulent. Parce que ces gens-là, pour atteindre ces quotas, ils doivent faire 14 heures par jour.
Ce programme répond à une demande des chauffeurs, réplique l'entreprise, qui se défend de les pousser à conduire toujours plus. Rim Sacker, directrice de la communication Uber en France.
Le premier objectif de ce programme, c'est la satisfaction tout d'abord des chauffeurs. Il ne s'agit absolument pas de forcer, mais de récompenser la fidélité et la façon dont roulent les chauffeurs. Donc en aucun cas, il s'agit d'obliger qui que ce soit à rentrer dans le programme.
Et ces statuts, Gold, Platinum ou Diamond, durement acquis, n'ont rien de définitif. Les compteurs sont remis à zéro tous les 3 mois.
Comme quand les chauffeurs d'Uber craignent de devenir des dangers publics, c'est un reportage de Sébastien Sabiron.
Il est 7h33, le gouvernement fait un pas en direction des urgentistes en grève, Sébastien, depuis près de 6 mois.
Agnès Buzyn a fait hier une série d'annonces. Lors d'une visite surprise aux urgences de Poitiers, la ministre de la Santé incite les hôpitaux à créer des filières spécifiques d'admission directe pour les personnes âgées, en clair sans avoir à passer par les salles d'attente. Les médecins libéraux vont aussi être davantage associés au SAMU. Les SAMU seront ainsi autorisés à envoyer une ambulance vers un cabinet médical de ville ou une maison de santé sans que les patients aient à avancer les frais. Et puis autre annonce, Solène Lehen, les infirmiers seront formés à faire de nouveaux gestes afin de soulager les médecins.
Réaliser des points de suture ou envoyer un patient faire une radio après une courte formation, ce sont des actes que les infirmiers des urgences pourront désormais faire, explique Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Ils ne peuvent pas les faire aujourd'hui parce qu'ils attendent un avis médical. Ça permet en réalité à nos concitoyens de ne pas attendre un avis médical pour avoir une radio de cheville, par exemple, si on a une suspicion de fracture. Et donc ça accélère, ça fluidifie les passages aux urgences.
Fluidifier les urgences, décharger les médecins de certaines tâches, les infirmiers qui accepteront de le faire toucheront 80 euros de plus par mois. La mesure permet aussi de rendre le métier d'infirmier plus attractif en élargissant le champ de leurs compétences et de leurs responsabilités, de la reconnaissance précisément les grévistes en réclamaient. Enfin, Agnès Agnès Buzyn crée à partir de septembre 2020 un nouveau titre, infirmier de pratique avancée en médecine d'urgence pour les professionnels déjà expérimentés. Après 2 ans de formation, ils pourront réaliser des diagnostics, peut-être même prescrire des examens ou des médicaments. L'annonce intervient juste, le champ de leurs futures compétences reste encore à définir.
Solène Lehen, d'autres annonces du gouvernement suivront. La semaine prochaine, la ministre de la Santé recevra le 9 septembre tous les acteurs du secteur. En attendant, première réaction hier soir, celle de SAMU Urgence de France, pour qui ces mesures, je cite, vont dans le bon sens. Et puis de leur côté, plusieurs organisations de médecins hospitaliers, jusqu'ici non solidaires du mouvement, ont décidé de rejoindre la mobilisation lors d'une assemblée générale qui aura lieu dans une semaine. On en parle depuis ce matin sur l'antenne, journée spéciale sur Inter, aujourd'hui à l'occasion du Grenelle contre les violences conjugales, lancé aujourd'hui officiellement par le gouvernement. Ministères, associations, familles de victimes seront réunies jusqu'au 25 novembre pour tenter d'élaborer une nouvelle stratégie contre ce fléau qui a fait hier sa 101e victime, une vieille dame de 92 ans vivant dans le Tarn, tuée semble-t-il sous les coups de son mari de 94 ans, hospitalisé hier en psychiatrie. L'océan Viking a repris la mer, se remplaçant de l'Aquarius, navire humanitaire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Ce navire a donc quitté hier soir Marseille pour sa deuxième mission de recherche et de sauvetage de migrants. Lors de sa première opération, l'équipage avait sauvé 356 hommes, femmes et enfants. L'ouragan Dorian, lui, faiblit légèrement. Il a été rétrogradé ce matin en catégorie 3 sur 5. Il a déjà fait au moins 5 morts aux Bahamas. Direction maintenant le Proche-Orient, où la tension reste vive entre Israël et sa bête noire, le Hezbollah libanais. Le Hezbollah qui a lancé hier à la télévision qu'il n'avait plus de ligne rouge et qu'il était prêt à frapper l'État hébreu en son cœur et en profondeur. Une montée de fièvre à seulement 2 semaines des prochaines élections législatives. Benjamin Netanyahou est en effet à la recherche d'une nouvelle majorité et à 15 jours du scrutin, stratégie déjà éprouvée, Bibi s'en prend aux journalistes et surtout à la première chaîne de télé en Israël, Channel 12, qui vient de sortir une série qui déplaît beaucoup au Premier ministre israélien. À Jérusalem, notre nouveau correspondant, Frédéric Mettezo.
Avec la chaîne américaine HBO, Channel 12 a coproduit la série Our Boys, Nos Garçons, 10 épisodes. Il y a 5 ans, en Cisjordanie, le Hamas enlève et tue 3 jeunes juifs. Un mois plus tard, en représailles, des colons assassinent un adolescent arabe de Jérusalem-Est. La série raconte l'enquête sur cet enlèvement-là, ce qui déplaît à Benjamin Netanyahou.
La moitié d'un épisode raconte le meurtre tragique de 3 garçons juifs, explique le Premier ministre. Et puis un autre meurtre tragique, celui d'un garçon arabe, occupe tout le reste de la série qui calomnie Israël. Je ne suis pas surpris, poursuit Netanyahou, car je suis habitué à leur calomnie. Car Benjamin Netanyahou en veut aussi à un journaliste de Channel 12 qui a révélé plusieurs faits présumés de corruption. Netanyahou l'accuse d'être une marionnette de ses actionnaires qui préparent un attentat contre la démocratie. Menacé sur les réseaux sociaux, le journaliste vit désormais sous protection rapprochée. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Les attaques de Benjamin Netanyahou contre la télé israélienne à retrouver en images sur franceinter.fr. On reste au Moyen-Orient où les Américains et les talibans sont sur le point de signer un accord. Les États-Unis s'engagent notamment à retirer leurs forces de 5 bases militaires d'Afghanistan, 5000 GIs en moins sur les 14 000 déployés. Projet d'accord immédiatement sanctionné hier par un nouvel attentat meurtrier dans Kaboul. L'explosion d'un camion plein d'essence a fait au moins 16 morts et 100 blessés dans la capitale afghane.
Et à 7h38, direction Strasbourg, Sébastien, où la rentrée des parlementaires européens approche.
Et on s'intéresse ce matin à la rentrée du Rassemblement National qui choisit en ce moment ses assistants parlementaires. Le RN, on le sait, est soupçonné d'emplois fictifs. Alors, est-ce que le parti de Marine Le Pen continue de jouer avec le feu? Eh bien, Maxence Lambrecq a découvert quelques CV un peu douteux.
Marine Le Pen a suivi la moindre embauche, se méfiant des fidèles de sa nièce, Marion Maréchal, craignant les petits nouveaux très nombreux à candidater, écartant les profils jugés sulfureux. Elle se retrouve tout de même avec 2 cas polémiques. L'ex-assistante de Jean-Marie Le Pen, Annika Bruna, devenue députée, vient d'embaucher Guillaume L'Huillier, mis en examen comme assistant de Bruno Gollnisch, et Timothée Houssin, mis en examen lui aussi comme assistant de Nicolas Bay. On s'en serait bien passé, reconnaît un élu, mais ce ne sont pas des emplois fictifs, assure-t-il. L'autre dossier sensible, c'est la confiance à nouveau accordée à Nicolas Crochet, expert comptable renvoyé cet automne devant un tribunal correctionnel pour le financement des campagnes de 2012 à 2015. Il sera encore chargé de verser les salaires aux assistants. Le RN voit aussi arriver deux petits nouveaux qui ne sont pas inquiétés par la justice. Andrea Cotarac, l'ancien élu de la France Insoumise qui avait rejoint le RN pendant les européennes, et Isabelle Muller, ex-attachée de presse d'Éric Zemmour et de Philippe Devilliers.
Maxence Lambrec, service politique de France Inter.
Et pour finir, ce succès digne d'un blockbuster, l'exposition Toutankhamon, Sébastien, à la Villette vient de battre un record.
L'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à la Grande Halle, en effet, devient l'exposition la plus visitée de l'histoire de France avec, tenez-vous bien, 1 371 476 billets vendus à ce jour. C'est plus que la précédente expo de Toutankhamon en 1967 au Petit Palais où les trésors du pharaon avaient déjà attiré 1 240 000 spectateurs. Il faut dire que les pièces exposées sont inédites et toujours aussi fascinantes, Stéphane Capron.
Beaucoup de visiteurs s'y sont pris plusieurs mois à l'avance pour réserver leur ticket. La fréquentation est à la hauteur de l'événement en 1967. 50 pièces avaient été présentées au public. Il y en avait trois fois plus pour cette ultime exposition. Car c'est la dernière fois que ces trésors découverts en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter parcourent le monde avant de rester définitivement en Égypte. Et c'est pour Thierry Vincenti, le directeur général d'IMG France, l'organisateur de l'exposition, l'une des raisons de ce succès populaire.
Grâce au grand musée égyptien qui est en train d'être construit sur le plateau de Gizeh, face aux pyramides, il y a cette volonté de pouvoir effectivement accueillir l'ensemble de ces pièces à la fin de la tournée. Donc cette idée que c'est peut-être la dernière fois qu'on pouvait les voir en tournée. Donc je pense que ça a participé véritablement au succès incroyable. Il y a quand même une offre sur Paris d'exposition qui est exceptionnelle. On se disait, on espérait pouvoir atteindre le million, battre ce record et atteindre ce résultat, c'est juste exceptionnel.
Les expositions Toutankhamon version 2019 et 1967 battent à plat de couture les grandes rétrospectives de peinture, reléguant l'Expo Monet de 2010 au Grand Palais à la troisième place avec 913 000 visiteurs.
Toutankhamon, le trésor du pharaon, exposition France Inter, ça s'achève le 22 septembre et ça partira ensuite pour Londres, prochaine destination.
Merci Sébastien Legénie.